Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal. Et juste après, on ouvre, comme chaque soir, le club des idées. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Et ce soir, le vélo en débat.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Ben voilà, bicyclette comme Yves Montand. Et pourquoi pas, tous demain, bicyclette. Les ventes explosent depuis le déconfinement. Des pistes cyclables voient le jour un peu partout. Les villes s'y convertissent à marche forcée. Mais le vélo peut-il aussi s'imposer comme mode de transport à la campagne? Les Suédois l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités à 19h20. Voilà pour le programme. Et d'abord, le journal avec vous, Carole Ferry.
S'ils veulent une ville fantôme, ben c'est ce qu'ils vont avoir. On peut faire autrement. Faites-nous confiance et ne prenez pas des décisions qui nuisent à tout le monde.
Bar fermé à minuit et demi, pas plus de 10 personnes dans les parcs et sur les plages. Nice passe à son tour en mode lutte renforcée contre le Covid.
Nous aurons bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert, mais pas pour tout le monde.
Se battre, se battre, se battre, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Sa réponse à Édouard Philippe pour combattre la crise sanitaire, économique et peut-être sociale.
L'épidémie n'empêche pas certains de boire un verre pour la fête des voisins ce soir. Nous serons dans le 17e arrondissement de Paris.
Et puis Christophe Maé, Youssou N'Dour, Yann Arthus Bertrand, trois artistes réunis pour un même single pour le climat.
La tendance météo avec Anissa.
Et vigilance orange aux orages pour l'Hérault. Attention, dans les prochaines heures, il va pleuvoir très fort dans le sud. Des pluies qui pourraient atteindre 3 semaines de précipitations en 24 heures. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Nous aurons donc bien des tests salivaires en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Tests salivaires, on comprend bien le principe. Mais vous nous dites, Anne Le Gall, que ce ne sera pas pour tout le monde.
Voilà, c'est un feu vert seulement pour les personnes qui présentent des symptômes et qui supportent mal l'écouvillon dans le nez. Ces personnes, ce sont notamment les personnes très âgées, celles qui sont atteintes de troubles psychiques ou les enfants. Ces restrictions s'expliquent par une moins bonne fiabilité du test salivaire par rapport au test PCR de référence, explique le professeur Dominique Le Guludec. Elle préside le collège de la Haute Autorité de Santé et c'est aussi pour cela que ces tests ne sont pas validés pour les personnes asymptomatiques.
Les performances de ces tests ne sont pas suffisantes pour les utiliser en dépistage chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Parce que chez ces personnes, nous raterions 3 malades sur 4. Le taux d'erreur serait de plus de 75%.
Voilà. En revanche, pour les enfants ayant le nez qui coule ou les personnes âgées présentant des symptômes, le geste sera plus simple désormais. Il suffira de cracher dans un tube lors d'une visite chez le médecin ou chez soi, puis de déposer ce test en laboratoire. En cas de résultat positif, le patient devrait être averti en 24 heures. La HAS a aussi donné son feu vert pour le remboursement de ces tests. L'assurance maladie va trancher dans les jours qui viennent.
Merci Yann Le Gall, spécialiste santé d'Europe.
Les restrictions locales se poursuivent pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, c'est la ville de Nice qui annonçait de nouvelles restrictions.
Pas plus de 1000 personnes pour les grands événements avec prise de température à l'entrée, 10 personnes maximum ensemble dans les parcs, jardins et les plages de la ville.
Et fermeture des bars à minuit et demi, réaction du président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie à Nice, Noël Ajoury.
Monsieur le président, monsieur Macron nous a annoncé il y a quelques jours, le virus on le connaît maintenant, on va vivre avec. Et hier, M. Véran nous annonce autre chose. Il demande au préfet de reprendre encore des nouvelles dispositions. C'est ce qu'il a fait, M. le préfet, aujourd'hui, à savoir fermeture à 00h30. La semaine dernière, c'était 1h. Aujourd'hui, 00h30. Demain, je ne sais pas. On dort avec une disposition, on se lève avec une autre. On ne comprend rien. S'ils veulent une ville fantôme, mais c'est ce qu'ils vont avoir. On peut faire autrement. Faites-nous confiance et ne prenez pas pitié, ne prenez pas des décisions comme ça qui nuisent à tout le monde, à la profession et à des villes comme Nice ou comme Marseille demain ou comme Lyon après-demain, je ne sais pas.
Le président de l'UMI Nice Côte d'Azur, Noël Ajoury, au micro de Frédéric Michel. À Lyon, justement, où de nouvelles restrictions devraient être présentées également au gouvernement d'ici demain et sans doute aux Lyonnais à partir de lundi.
Les conséquences de cette reprise de l'épidémie face à la crise du Covid, les journées du patrimoine ont été annulées dans certaines villes ce week-end. C'est le cas à Lille, Bordeaux ou encore à Ajaccio.
À Paris, elles sont maintenues, mais avec des jauges limitées. Ce sera le cas à l'Élysée, pas plus de 2 500 visiteurs par jour. C'était 10 000 l'an dernier.
Et avant d'ouvrir les portes du palais présidentiel demain, Emmanuel Macron est allé promouvoir notre patrimoine aujourd'hui à Condom dans le Gers, à l'hôtel de Polignac. C'est l'un des premiers bâtiments à avoir bénéficié du fameux loto du patrimoine.
Mais il a beaucoup été question, bien sûr, de l'épidémie de Covid et de la crise économique. Hier, Édouard Philippe prédisait une tempête économique, sanitaire, peut-être sociale. Notre journaliste, Adrien Beck, a demandé sa réponse au chef de l'État.
Partout où nous pouvons nous battre, nous nous battons. Et le gouvernement, aux côtés des élus locaux, des salariés, se bat pour qu'il n'y ait aucun abus, aucune fatalité, aucune entreprise ou investisseur qui n'utilise le contexte pour essayer de mettre la clé sous la porte. La difficulté est là, nous le savons. Et il ne s'agit ni d'être catastrophiste, ni d'être angélique, mais de se battre, nous battre, nous battre, nous battre. Pour tous nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de perdre leur travail, ou parfois dans le désarroi quand ils l'ont perdu, pour leur famille, pour leurs enfants, nous battre pour eux et avec eux.
Voilà, se battre trois fois, dit le président de la République, éviter donc que des entreprises utilisent l'argument, le contexte du Covid pour licencier. On entend beaucoup de belles paroles ces derniers jours, Olivier Samin, en particulier évidemment depuis l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Mais concrètement, quels sont les moyens d'action de l'exécutif?
Alors il y a le dispositif de l'activité partielle de longue durée que l'exécutif présente comme le bouclier anti-licenciement. Le principe, vous le connaissez, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 24 mois, une entreprise confrontée à une baisse durable de son chiffre d'affaires peut réduire le temps de travail de ses salariés jusqu'à 40% pendant une période qui peut s'étaler sur 2 ans. Et pendant ce temps-là, les salariés continuent à toucher leur salaire presque intégralement grâce à une aide financière que l'État verse à l'employeur. Le gouvernement mise beaucoup sur ce levier mis en place dans le plan de relance. Au début de la semaine, Jean Castex a mis la pression sur les entreprises et sur les branches pour qu'elles se saisissent sans tarder et massivement de cet outil en négociant des accords avec les syndicats. Pour le moment, 2 accords de branche seulement ont été conclus, d'où l'impatience de l'exécutif.
Mais au-delà de ce dispositif, Olivier, l'exécutif joue aussi de son poids politique.
Oui, des dizaines de dossiers sont surveillés comme le lait sur le feu à Bercy. Pour éviter des saignées dans les effectifs, But, sous l'impulsion du ministère de l'économie, a repris Conforama. Le gouvernement met aussi la pression sur General Electric pour réduire au maximum l'ampleur de son plan social. Idem pour Nokia, mais on le sait, ce ne sera pas suffisant pour réussir à éviter ce qui s'annonce comme une très grosse casse sociale.
Merci Olivier Samin pour ces explications.
Le groupe Suez façonne lui son bouclier face à l'offensive de Veolia. Cette fois, c'est l'intersyndicale qui appelle à une journée de mobilisation mardi. Elle souhaite alerter sur le démantèlement du groupe en cas de rachat par Veolia.
Alors, on a entendu qu'il y avait des restrictions dans un certain nombre de villes en raison du Covid. Mais là où les rassemblements restent autorisés, c'est le cas notamment à Paris, certains n'oublient pas ce soir la fête des voisins.
Avec le respect des gestes barrières, bien sûr, c'est comme ça que tous les voisins d'une même rue, la rue Gautet, ont choisi de se retrouver ce soir dans le 17e arrondissement de Paris. Vous êtes sur place, Diane Berger, et vous avez assisté aux préparatifs de cet apéro qui commence en ce moment même.
Effectivement, ici, alors que la fête des voisins s'apprête à commencer, il y a du gel hydroalcoolique sur toutes les tables et autant que possible, les convives doivent garder le masque. Loulou, la gardienne d'immeuble à l'origine de la fête, le reconnaît. Le Covid a bousculé son organisation.
Ça me réconforte de savoir qu'on a quand même 6-7 agents de sécurité qui seront là en permanence pendant toute la soirée pour sensibiliser les gens, c'est pas pour les punir ou quoi que ce soit, mais attention, vous remettez votre masque s'ils enlèvent trop longtemps pour manger ou boire.
Les années précédentes, dans cette rue, jusqu'à 700 personnes pouvaient se retrouver ici pour la fête des voisins. Alors Nicolas, l'un des co-organisateurs, l'avoue, il a été question pendant quelques temps d'annuler la fête.
On a décidé de la maintenir parce que c'est les gens qui nous le demandent. Les gens ont besoin de cette solidarité, de la sentir, d'agir en fonction aussi et de se sentir soudés.
Sébastien acquiesce alors qu'il aide à installer les dernières tables. Lui habite ici depuis des années et Covid ou pas, il compte profiter de ce moment pour rencontrer ceux qui vivent à 2 pas de chez lui.
Ça va, on a toutes les protections là, on est en train de se parler avec un masque chacun. Ça va changer un peu, ça va faire une fête des voisins masqués, ça me gêne pas trop. J'ai l'impression que le Covid nous ramène sous le signe de la solidarité, on est tous égaux derrière nos masques.
Mais il le sait, cette année il y aura très probablement moins de monde que d'habitude et pour l'instant, c'est vrai, dans la rue, alors que l'événement vient de commencer, ils ne sont qu'une vingtaine.
Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, Diane Berger.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h10, la suite de votre journal avec Carole Ferry. Un homme de 36 ans a donc été mis en examen pour avoir enlevé 2 adolescentes de 11 et 17 ans.
C'était sous la menace, en Charente-Maritime, l'une le 26 août, l'autre le 11 septembre. À chaque fois, le même procédé. Il les a enlevées, droguées, puis relâchées. et il vient d'être interpellé, Guillaume Bier.
Oui, c'est une enquête éclair qui a été menée par la police judiciaire de La Rochelle et leurs collègues de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. 5 jours seulement après le deuxième enlèvement, ils ont interpellé le suspect chez lui à Royan. Un homme de 36 ans, violent, déjà connu de la police, mais pas pour des faits impliquant des mineurs. Or, c'est bien lui qui est accusé d'avoir enlevé 2 adolescentes. La première, 17 ans, à Saint-Palais-sur-Mer fin août. La deuxième, une collégienne de 11 ans à Royan la semaine dernière. À chaque fois, le même scénario. Des victimes qui marchent seules dans la rue. Le prédateur les fait monter dans sa voiture sous la menace d'une arme. Il les ramène chez lui, les drogue avec des médicaments, les questionne longuement sur leur famille et finit par les déposer près de leur domicile quelques heures plus tard sans avoir commis de sévices. En perquisition dans son logement, les enquêteurs ont retrouvé les mêmes médicaments ainsi qu'un pistolet factice et dans son ordinateur, des images pédopornographiques. En garde à vue, cet homme a reconnu les faits. Son mobile n'est pas clair, ses explications sont encore confuses. Il a été mis en examen et incarcéré hier soir.
Merci Guillaume Bier.
Dans l'actualité également, Gaël Monfils, victime d'insultes racistes.
Tout a commencé après sa défaite au Master de Rome. Certains semblent ne pas avoir du tout apprécié. Le tennisman français a immédiatement reçu une kyrielle d'insultes sur les réseaux sociaux.
Parmi ces insultes, Cyril de la Morinerie, beaucoup étaient à caractère raciste.
Oui, Gaël Monfils a publié sur Instagram une série de messages qu'il avait reçus en prévenant d'abord ses abonnés, je cite « attention aux yeux ». Ensuite, c'est en effet un déluge d'insultes à caractère raciste, faisant donc essentiellement référence à sa couleur de peau. Singe noir, idiot, bâtard noir, esclave, etc. Le français de 34 ans répond avec humour « Malheureusement, j'étais à fond, mais très nul. » Et de conclure « Pas une belle soirée, mais j'espère revenir plus fort. » Et là, sur les réseaux sociaux, cela arrive fréquemment. D'autres joueurs et joueuses de tennis ont été récemment la cible d'attaques virulentes. Très souvent, ce sont des parieurs frustrés qui se déchaînent en cas de défaite du joueur sur lequel ils avaient misé. Gaël Monfils faisait son retour à Rome après 6 matchs sans jouer en raison du coronavirus. Le Parisien est éliminé en Italie par un joueur issu des qualifications et cela à 10 jours de Roland-Garros. Gaël Monfils espère participer au Grand Chelem français, contrairement à Joe Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, qui eux ont déclaré forfait.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Enfin, Christophe Maé, Youssou N'Dour, Yann Arthus Bertrand réunis autour d'une même chanson. Elle sort aujourd'hui. L'ours, l'un a écrit, l'autre a posé sa voix, le dernier a réalisé le clip. Une collaboration qui n'a rien d'anonyme puisqu'il est question de climat, comme l'a confié Christophe Maé à Angèle Châtelier.
Ça fait quelques années que je me traîne ce texte, l'histoire de cet ours qui dérive sur un bout de glaçon. Et puis pendant le confinement, il m'est venu l'idée de l'emmener en Afrique. Donc je le fais délirer complètement. J'en perds le nord, j'en perds l'Arctique, j'entends des voix venues d'Afrique.
Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure.
Et donc voilà, me vient assez naturellement en fait la mélodie africaine. Et puis là j'appelle Youssou N'Dour. C'est quelqu'un que j'avais croisé déjà auparavant, entre autres à la COP22. On avait partagé la scène ensemble. On parle du réchauffement climatique forcément. Et j'évoque aussi à travers cette chanson, il y a un côté très humaniste quoi. De mélanger ma variété française à la musique africaine, j'en rêvais.
Voilà, Christophe Maé, c'était le journal de Carole Ferry. Merci Carole. La météo avec vous, Anissa.
Avec un vrai changement de temps pour demain. Pour demain et les jours qui suivent. Hein.
Vigilance, il y a du mauvais temps qui arrive, des nuages.
Vous avez prévenu, je vous avais dit week-end pourri, vous étiez là hier, vous vous en souvenez. Bon, je ne mens pas. Après cet été qui a duré plusieurs semaines, et bien demain, le ciel va se couvrir sur les Pyrénées, l'Occitanie, avec des averses dès le début de journée. Et puis, dans l'après-midi, ces averses vont prendre un caractère orageux, des orages forts accompagnés de vents violents, des orages qui vont toucher dans l'après-midi le Poitou-Charentes, l'Auvergne, la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen et particulièrement les Cévennes. Justement, on va s'arrêter sur les Cévennes puisque demain, dès 10h du matin, Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange parce que sur les Cévennes, on attend 2 à 3 semaines de pluie en 24 heures, des vents forts, de la grêle. Bref, c'est un épisode cévenol assez violent, effectivement. Vous voulez que je termine quand même par
J'aimerais bien,
du bien.
S'il vous plaît. Bon. Enfin, si tout ça se vérifie dans les faits, parce que si c'est pour raconter des salades, c'est pas la peine.
Eh bien, vous vérifierez, puis on en reparlera lundi, mais au défi. Lundi, demain, donc, au nord de la Seine, là, c'est là où le temps sera le plus sympa, effectivement, de la région parisienne jusqu'à l'Alsace. Le soleil sera là, quelquefois voilé, mais il sera là.
On vous sent hésitante quand même.
Non mais vous me faites peur surtout. J'ai la pression.
Bon week-end Anissa.
Bon week-end.
Merci. On ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des Idées avec d'abord la carte blanche du Club des Idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Un coup de griffe ou un coup de cœur, comme chaque soir, sans détour. Et ce soir, c'est un économiste atterré qui est avec nous, Thomas Porcher. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre carte blanche ce soir sur Bridgestone. Si c'est ça le monde d'après, dites-vous, alors c'est raté.
Oui, tout à fait. On nous l'avait promis, je me souviens, en pleine crise. Il y aura un avant et un après. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et voilà comment commence le monde d'après. La fermeture de l'usine de pneus Bridgestone à Béthune, mettant près de 900 personnes au chômage. Un nouveau site qui s'inscrit dans une longue tradition de fermeture d'usines en France, dans la lignée de Goodyear en 2014 ou Continental en 2010. Rappelons qu'en 30 ans, l'emploi industriel global a perdu 10 points dans la population active, passant de 22%
à
12%.
Oui, mais Thomas Porcher, le gouvernement veut renforcer la souveraineté économique. C'est une promesse.
Et oui, le président l'affirmait. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Bruno Le Maire nous disait « relocaliser, c'est possible ». Peut-être qu'avant de penser à la souveraineté ou à la relocalisation, il faudrait faire en sorte que nos usines ne ferment pas et se délocalisent pas. Alors vous allez me dire, oui Thomas, tu pousses un peu.
Je dis ça, Thomas,
je pousse un peu, comme d'habitude. Mais les politiques sont montées au créneau. Trahison, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui soit dit en passant, compte tenu de sa carrière politique, pourrait faire une thèse sur le sujet. Une décision révoltante, dit Bruno Le Maire. Trahison, révoltant, on oublierait presque que c'est ce gouvernement qui a fait passer la loi travail par ordonnance en nous expliquant qu'il fallait licencier pour créer des embauches. Et oui, on se souvient du fameux plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, CTE, ou les accords de compétitivité qui permettent à une entreprise de faire travailler plus un salarié en le payant moins, CTE aussi. Après, on peut imaginer dans ce contexte qu'ils se sentent trahis parce qu'ils ont mis le paquet.
Bon, oui.
D'abord le CICE, d'ailleurs.
C'était François Hollande.
François Hollande, baisse de charge sous Macron. On apprend hier par France Stratégie que ça a coûté 90 milliards pour les finances publiques en 5 ans pour ne créer que 100 000 emplois. Ça fait 900 000 euros par emploi. C'est quand même cher. On rappelle que le site de Béthune a touché 1,8 million d'euros en 2018 de CICE.
Vous allez me parler de la baisse de l'impôt sur les sociétés.
Tout à fait. La baisse d'impôt sur les sociétés, 15 milliards par an. C'est d'ailleurs ce qui est prévu en termes d'économie sur l'assurance maladie, la santé. Vous avez tout est une question d'équilibre.
Je ne vous ai pas entendu sur la baisse des impôts de production.
Ça arrive, c'est maintenant, c'est 10 milliards par an et c'est pour normalement relocaliser. Alors la morale de l'histoire, c'est quoi?
Oui, c'est quoi la morale de l'histoire?
La morale de l'histoire, c'est la souveraineté, la relocalisation, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Les promesses des effets de baisse de fiscalité sur les créations d'emplois, elles n'engagent que ceux qui les croient. Si on veut vraiment mettre à l'abri nos usines des délocalisations, il faut s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la mondialisation et la financiarisation de l'économie. Tant qu'il sera possible d'acheter des pneus fabriqués par des travailleurs sous-payés à l'autre bout du monde dans des pays ne respectant pas les mêmes normes sociales et environnementales, le coût du travail français sera toujours plus élevé. Il va falloir à un moment trancher parce qu'on ne peut pas vider éternellement les mots de leur sens.
Bien, c'était la carte blanche d'un économiste atterré, Thomas Porcher. Merci.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le débat du Club des Idées. Il est 19h22. Si nous abandonnions notre bonne vieille voiture pour le vélo, c'est la grande tendance de cette rentrée. Vous en avez entendu parler depuis le déconfinement. Les ventes de vélos explosent partout en France. Il y a même, paraît-il, des listes d'attente maintenant chez les revendeurs. Paris à des allures d'Amsterdam, alors le vélo peut-il aussi conquérir les campagnes comme l'ont fait les Suédois tous à vélo? Est-ce vraiment réaliste?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Voilà, Yves Montand était peut-être un visionnaire, tous à vélo. On en parle ce soir avec Jérôme Monnet, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes venu à vélo?
Oui.
Eh bien, c'est bien. Pierre Cerne, président du Club des Villes et Territoires Cyclables. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Et Marc Simoncini, fondateur de Mythic, mais pas que, qui vient de lancer un vélo électrique intelligent, le Angel Bike, c'est ça?
Oui.
Vélo électrique pour rouler en ville et à la campagne ou seulement
Il a été conçu pour les villes ou pour les trajets courts de l'ordre de 5 à 10 km. Donc voilà, petite bourgade, oui.
Donc c'est une conviction que vous avez, le vélo c'est l'avenir?
Alors nous on a eu cette conviction il y a 3 ans. On a fait le pari que les villes allaient être complètement modifiées il y a 3 ans, parce que ce vélo on a mis 3 ans à le développer. Et on a parié qu'une des grandes capitales d'Europe, à l'époque on n'imaginait pas que ça puisse être Paris, mais on a fait le pari qu'une des grandes capitales d'Europe allait bannir la voiture thermique individuelle des centres-villes. Et on s'est dit ça va arriver et donc il faut proposer un moyen alternatif suffisamment performant pour que les gens puissent abandonner leur voiture.
Et vous avez la conviction que ça peut arriver que demain les villes peuvent être à 90% des villes de vélo?
Bah oui, on y est presque. Alors on peut traiter les voitures électriques différemment, Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur cette voie-là et c'est, à mon avis, irréversible.
Alors peut-être d'abord un mot du constat. C'est vrai qu'on assiste à un phénomène. Hein, la pratique du vélo a bondi de 87% depuis le déconfinement. Les ventes, je le disais, s'envolent. Les réparations aussi, avec des magasins spécialisés qui sont pris d'assaut parce qu'il y a des aides d'État maintenant pour faire réparer son vieux vélo. Une aide de 50 euros pour tous ceux qui veulent remettre leur vélo d'aplomb, Pierre Cerne. Et ça profite à tout le monde. Tout le monde va maintenant réparer son vieux vélo pour enfourcher la bicyclette.
Exactement. C'est assez inimaginable. Ce qui est en train de se passer, ça, en quelques mois, là, il y a eu une sorte de... On a basculé dans un autre monde.
Mais est-ce
pour
que
le
ça
vélo.
Touche toute la France ou alors c'est juste
ça,
les
c'est ça qui nous a le plus impressionné. Donc, moi, je suis président du Club des villes et territoires cyclables. Donc, on a des collectivités de toute la France, mais on avait évidemment surtout des grandes villes, des métropoles, des communautés d'agglomération. Là, on a été contacté par des villes, enfin même des bourgs, en fait, tout petits, parfois.
Ah oui.
Enfin, je veux dire, Saint-Quépéros... en Bretagne, entre Lannion et Perros-Guirec, oui. Comme ça, dans le périurbain ou même dans le rural.
Pour développer une offre de mobilité vélo.
Pour faire des aménagements cyclables temporaires.
Donc
y
des
compris
pistes cyclables.
Sur une départementale, en discussion avec le département.
Alors, le temporaire, il faudrait que ça s'arrête parce que les plots jaunes, là, c'est pas super élégant quand même.
Ouais, mais ça a permis d'aller très très vite.
C'est
en
une
fait.
Blague parce que ça non, fait non, débat
mais ça
en
a
ce
permis d'aller
Paris.
Très très vite. Et évidemment, on est dans la phase maintenant de pérennisation. Tout ça va passer en blanc. Mais quand on voit que Saint-Loup-la-Mairie, dans les Deux-Sèvres, ouais. Une petite ville à Renton, dans la Haute-Savoie, enfin des endroits.
Et donc, ils veulent Cartier, construire dans l'Occitanie, des pistes cyclables.
Un bout du Tarn-et-Garonne. Ouais, et ils font des aménagements cyclables temporaires, y compris sur des distances. De l'ordre de 5-10 km, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a des gens, et le confinement en fait, et le déconfinement ont poussé des gens en fait, à prendre ce type de déplacement. Nous, on pensait que ce serait vraiment dans les endroits où les gens ne prendraient plus les transports en commun. Mais là, ce n'est pas une question de transport en commun. Alors, c'est vraiment une question de nouveaux types de déplacements pour faire 5 km jusqu'à la zone d'activité. Donc, ce que disait monsieur, ça peut marcher y compris dans le rural et le périurbain.
On va en parler des chiffres de mobilité aujourd'hui en France, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au quotidien, en fait, les Français font des petits trajets et qu'on a l'impression, quand on habite en milieu rural, qu'on a besoin de sa voiture. Mais en fait, on pourrait, dans bien des cas, n'utiliser qu'un vélo ou une mobilité de
ce type. Ça remplace souvent la deuxième voiture, en fait, en milieu rural et périurbain. Ça remplace la deuxième voiture, le vélo électrique.
Alors, sur le constat, Jérôme Monnet, je le disais, vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, vous connaissez bien ces histoires de mobilité. Est-ce que cette tendance du vélo, d'abord, elle est durable ou elle est juste post-Covid parce que les gens ont un peu peur d'aller dans les transports en commun? Et deux, est-ce qu'elle peut gagner les campagnes de façon massive?
Bon, il n'y a aucun doute qu'elle est durable, mais ça sera durable si on ne se polarise pas que sur cette forme spécifique qu'est le vélo. Ce qui va être durable, c'est l'hétérogénéisation des formes de micro-mobilité. Et le
par
vélo
exemple,
va en faire partie.
Par exemple, pour être concret?
Eh bien, concrètement, trottinette, skate, vélo électrique, vélo non électrique, enfin n'importe quoi électrique ou non électrique.
Mais ça, c'est bien pour les villes, mais à la campagne, pour emmener ses enfants à l'école, c'est un peu compliqué d'y aller en skate, non?
Écoutez, la trottinette, on n'arrête pas de voir des parents qui emmènent leurs enfants à l'école.
À la campagne sur aussi
Alors, moi, je n'ai jamais observé à la campagne. Mais en attendant, la trottinette qui n'était pas jamais été dessinée pour avoir deux personnes dessus, il y a des usages sociaux inventifs qui les transforment. Et je pense que ça va concerner le vélo. Parce que, regardez, le vélo tel qu'on le voit aujourd'hui, sa forme fondamentalement n'a pas changé pendant un siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui,
c'est toujours deux roues, une chaîne,
voilà,
un guidon,
un guidon et une selle.
Alors à part celui de M. Simon Sini,
mais moi, ce que je pronostique, ce qui va être durable, c'est la prolifération et l'hétérogénéisation de ces formes où vous aurez des hybrides, trottinettes, vélos, des vélobus. Vous voyez, il y a déjà les vélos cargo.
Les vélos cargo, oui.
Mais ça va être vrai pour des trottinettes. Il y aura des trottinettes cargo, il y aura des trottinettes familiales.
On peut clipper une trottinette sur un fauteuil roulant.
Voilà.
Ah oui.
Ouais. Il y a ça maintenant qui existe.
Donc c'est la multiplicité des outils.
C'est ça qui va devenir durable.
Pour se déplacer, qui peut devenir
durable.
En gros,
l'effondrement de la voiture, qui était aussi une forme assez standard et homogène, et la multiplication et le remplacement de ces énormes engins par une multiplicité d'engins qui vont avoir des formes différentes. Il n'y a pas que le vélo. Alors ce qui est intéressant avec l'infrastructure cyclable, c'est qu'elle est propice à ce que tous ces engins différents l'utilisent.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours avec nos invités en studio, en direct, Europe Soir, avec le débat du Club des Idées. Et si nous abandonnions notre bonne vieille voiture pour un vélo? On parle ce soir de la vélomania qui gagne la France dans les villes, mais aussi peut-être demain dans les campagnes.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
contenu de l'heure de pointe. C'est Joe Dassin, bien sûr. Alors, est-ce que demain, on pourra tous circuler à vélo dans les campagnes? On en parle avec vous, Marc Simoncini. Quelle est votre conviction? Vous avez conçu un vélo plutôt pour les zones urbaines. Est-ce que vous pensez que demain, le vélo peut être une mobilité alternative à la voiture dans les campagnes? J'évoquais tout à l'heure les chiffres de mobilité des Français. Aujourd'hui, le vélo, ça ne représente que 3 à 4% de la mobilité globale, mais on sait que les Français parcourent en moyenne entre 5 et 14 km à peu près chaque jour pour aller au travail, pour aller chercher leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses. Donc en fait, c'est très peu.
C'est très peu, et le vélo électrique, il se trouve que si on utilise cet outil, c'est un des plus adaptés pour faire ce type de distance dans des temps qui sont donnés et avec une condition physique qui évite d'arriver trempé au bureau parce qu'on a pédalé sous la canicule. Donc, on pense, nous, que le vélo électrique, c'est un des meilleurs outils pour se déplacer sur ces distances. La dichotomie ville-campagne, on ne l'a pas vraiment faite. On l'a juste faite en termes d'économie parce qu'on a voulu faire un vélo très léger. Donc, la batterie est plutôt légère. Et pourquoi? Parce que le principal frein à l'achat d'un vélo, en tout cas dans les villes, je ne sais pas, à la campagne, c'est le vol et la sécurité du passager. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est de concevoir un vélo qui résolve deux problèmes de vol et de sécurité quand on roule dessus. Est-ce qu'il y a des vols à la campagne? Je sais.
Et vous me disiez, pour l'anecdote, quelque chose d'amusant pendant la pause. Vous me disiez, j'ai eu l'idée, parce que mon fils, j'ai compris qu'il ne passerait plus le permis ou qu'il n'aurait pas de voiture demain, ça ne l'intéressait pas.
Il me réclamait un scooter, je lui dis non, c'est trop dangereux, je t'achèterai une petite voiture quand tu auras 18 ans. Et il m'a dit, mais je ne veux pas de voiture. Et là, j'ai dit, ça y est, on a changé d'époque. Si les gamins aujourd'hui, 18 ans, ne passent pas le permis et ne veulent pas de voiture, c'est qu'on est déjà dans un nouveau monde.
Alors à tous les gens qui nous écoutent, Jérôme Monnet, vous êtes professeur, je le rappelle, à l'école d'urbanisme de Paris, vous connaissez bien ces questions de mobilité. Pour tous les gens qui nous écoutent, peut-être en milieu rural, et qu'ils y sont bien sympas à Europe 1 avec leur promesse du vélo pour tous et du vélo du quotidien. Mais nous, à la campagne, on a besoin de notre voiture. Qu'est-ce que vous leur répondez?
On a besoin de la voiture, mais ça veut dire qu'on devient dépendant de la voiture. C'est-à-dire que là, vous avez un système où là où vous avez choisi de vivre, là où vous avez choisi ou pas choisi d'aller travailler, là où vous n'avez jamais le choix d'aller faire vos courses, c'est un système qui va vous contraindre à devoir avoir une voiture. Et donc, si vous changez un élément du système, alors si vous enlevez la voiture, comment vous faites pour accéder à votre travail?
Mais
comment vous faites pour accéder au service?
Par exemple, si le supermarché est à 15 km, on a besoin d'un volume assez suffisant pour ramener les courses. Et s'il pleut, en plus de ça, alors, est-ce que le vélo est le moyen idéal?
C'est magnifique comme exemple. J'ai un collègue, François Hacher, qui avait bien montré la relation qu'il y avait, qui était strictement que le coffre d'une voiture, le volume d'un frigo et le volume d'un caddie, ça faisait système. C'était la même chose. Et donc, si vous avez un frigo, si vous avez une voiture, si vous avez des supermarchés, vous retrouvez la même chose. Donc évidemment, si vous voulez faire vos courses en vélo, vous allez fragmenter vos courses. Donc vous n'allez pas acheter l'équivalent d'un coffre de voiture. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'un caddie. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'un supermarché. Vous me suivez?
Oui, absolument.
Et donc là,
sauf
moi
que
je suis...
c'est tout l'aménagement des villes et des villages qui font.
Je suis urbaniste. C'est bien pour ça que je parle de ça.
On veut revitaliser les bourgs, les villes, centre-ville.
Quand on parle de la désaffection des centres-villes, ça veut dire qu'il faut d'abord réimplanter tous les commerces de proximité dans les petites communes.
C'est l'urbaniste qui vous parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on commet l'aberration d'implanter des collèges à des endroits où les enfants ne peuvent pas y aller tout seuls en vélo. Donc, ça oblige les parents à emmener leurs enfants au collège en voiture. Vous voyez, c'est vraiment des problèmes d'urbanisme.
Mais alors, qui commence à changer l'espace?
Alors, c'est toujours quand c'est comme tout système, on se tient par la barbichette, il faut que tout le monde s'y mette. Hein.
Pierre Cern, vous êtes président du Club des villes et territoires cyclables.
En fait, il y a eu des collectivités qui ont été pionnières, mais là, on sent que vraiment, c'est en train de faire tache d'huile à une vitesse incroyable, à la fois dans les types de collectivités qui s'y mettent. Ça devient totalement transpartisan. Moi, dans le Club des villes et territoires cyclables, j'ai des élus de droite, de gauche, PC, vert, tout. Et il y a un engouement, mais un engouement parce que les gens le demandent, en fait. Maintenant, quelle que soit la couleur
politique... Vous pensez que le changement viendra de la société civile et non pas des pouvoirs publics?
Il a déjà commencé, en fait, dans la société. Et franchement, je reviens sur cette petite commune de Bretagne, Saint-Quay-Perros. Le maire, il a été élu en mars. Il a eu l'intuition qu'il fallait qu'il fasse des pistes comme ça pendant et en sortie de déconfinement. Le Décathlon, qui est à 10 km, au bout de deux semaines, il n'y avait plus un vélo à vendre dedans.
J'ai vu qu'à la sortie du confinement, il y avait eu 15 000 mais demandes de réservation de vélos chez Decathlon.
Et nous, on se faisait engueuler par les réparateurs qui disaient on a trop de boulot. Ils disaient, ah, ouais, bon, les gars.
Tout le monde se fait engueuler.
Mais,
tout le monde
s'est fait engueuler. C'était incroyable. Et nous, ils nous avaient promis la filière qu'ils avaient des stocks jusqu'en octobre.
Oui.
Et ça a été bouffé tout de suite.
Alors, de Bretagne, parce que vous évoquez cet exemple en Bretagne, on va aller aux Pays-Bas avec le représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France, Stijn van Oosteren. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors, c'est vrai que vous avez écouté ce qui s'est dit ici en studio, on avait envie de votre avis, car les Pays-Bas font partie, avec la Suède, avec d'autres, des pays qui sont pionniers en matière de vélo, où là-bas, tout le monde se déplace à vélo avec des grandes autoroutes qui relient les campagnes aux villes, qui sont bien droites, qui sont écartées des voitures. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à basculer au tout vélo comme cela ?
Alors, je suis complètement d'accord avec Pierre Ferme que c'est la société civile qui amène ce changement. Si les Pays-Bas sont aujourd'hui un pays cyclable, ce n'est pas parce qu'ils ont une culture vélo, mais c'est parce qu'ils ont décidé, à un moment donné, de créer une infrastructure dans laquelle un enfant de 7 ans peut se déplacer tout seul. Et c'est la culture qui est une conséquence de ça. Et comme souvent, c'est une crise qui provoque les vélos. Dans les années 70, les Néerlandais en avaient assez de la congestion automobile, notamment. Oui. Comme aujourd'hui en Île-de-France, il y a la densification qui a été décidée, donc, alors que l'espace ne grandit pas. Ensuite, il y a eu un ras-le-bol de l'insécurité routière. Il y a un journaliste qui a eu sa fille tuée par un automobiliste. Et suite à ça, il a lancé un mouvement national qui s'appelle « Stop au meurtre des enfants ». Il a dit « Si vous trouvez comme moi qu'il faut que nos enfants puissent rouler en sécurité, alors rejoignez-moi ». Et ça a mis des milliers de gens dans la rue. Et ensuite, ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est le choc pétrolier en 73, où l'économie était à sec, littéralement, et donc il fallait trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement néerlandais, sous la pression en fait du peuple néerlandais qui réclamait de la sécurité routière, a dit ben, « on va développer le vélo parce que comme ça, les enfants peuvent de nouveau retrouver leur liberté. Et puis, on gagne notre autonomie parce qu'on n'a pas de pétrole aux Pays-Bas.
Oui, ça veut
dire c'est comme ça que ça s'est passé. Le lendemain, en 1974, le gouvernement a lancé son premier plan vélo national.
Bon, on a un peu de retard, visiblement.
44 ans envers la France.
Bien. Non, je voulais vous poser une question, monsieur, parce que tout à l'heure, Jérôme Monnet évoquait la nécessité de reconstruire l'espace, la mobilité, mais aussi les villes et villages. Il faut repenser tout ça. C'est un ensemble, évidemment. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Vous avez repensé vos villes en fonction de cette mobilité vélo ?
Non, on ne les a pas défigurées pour les garder comme elles sont, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux Pays-Bas, on a toujours fortement contraint la construction de zones commerciales en périphérie pour ne pas enfermer, comme c'est le cas aujourd'hui en France, les citoyens dans le piège de « je fais mes courses à 15 km », comme il expliquait très bien aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle que Jean Castex, le Premier ministre français, a annoncé il y a peu de temps que suite à la Convention pour le climat, il faut absolument, il a demandé au préfet de faire le maximum pour vraiment stopper ces constructions de ces zones commerciales en périphérie qui engendrent en fait un besoin de mobilité qui est totalement artificiel. Parce que quand les gens, après avoir fait leurs courses, rentrent dans leur ville et ils constatent que leur ville se casse la figure parce que les petits magasins s'effondrent.
Oui,
c'est pourquoi ? C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont allés faire leurs courses ailleurs. Donc aujourd'hui, on veut créer de la proximité.
Voilà,
le vélo, c'est un instrument pour créer cette proximité et cette qualité de vie.
Bien, c'est un tout. Vous restez encore avec nous quelques instants par téléphone, monsieur le représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours avec nos invités qui continuent le débat pendant la pause. On est toujours en direct, 19h42 sur Europe 1 avec le débat du Club des Idées. Et on parle de vélo. Oui, vous voyez que le vélo, ça suscite le débat. C'est la grande tendance de la rentrée. Alors après les villes, le vélo gagnera-t-il les campagnes? On en parle donc avec nos invités. Je voulais vous poser cette question à Jérôme Monnet. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Est-ce qu'on peut imaginer, pour être concret et pour avancer un peu, un modèle comme Vélib partout sur le territoire et dans les campagnes? Vous parliez des différents outils de la mobilité. Alors, il y a le vélo du particulier qui appartient à tout un chacun. Et puis, il y a aussi cette mobilité où on se partage les choses. Mmh. Il y a l'autopartage, il y a le vélo-partage. Est-ce que ça peut arriver partout en France?
Alors, sans doute. Et justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, en concernant toutes les formes de transport, donc y compris des voitures, des camionnettes, des camions de déménagement, des vélos, des trottinettes, enfin, tous ces véhicules peuvent être partagés avec cette commodité que vous arrivez quelque part, vous laissez Vous allez vaquer à vos occupations, quelqu'un d'autre prend le véhicule que vous avez laissé, va vaquer à ses occupations, etc. Oui. Mais encore une fois, ça ne pourra pas résoudre tout seul tous les besoins. Et on continuera à avoir besoin.
Donc, il faut que ça s'additionne à d'autres systèmes de mobilité.
Oui, il faudra compléter, y compris sur les mêmes formes, mais en particulier sur les micro-véhicules, la possibilité que les micro-véhicules deviennent, enfin, ils le sont déjà pour certains, multimodaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit comme innovation sociale, c'est la grosse innovation sociale qu'on observe ces temps-ci, c'est les gens prennent leur trottinette et vont prendre les transports en commun avec leur trottinette. Ouais. Et ça, c'est génial parce que ça donne une portée aux transports en commun incroyable. C'est-à-dire, quand on considérait que les gares avaient un rayon de rabattement de 800 mètres, bah imaginez, avec une trottinette, vous avez un rayon de rabattement de 5 km. Donc, et là, encore une fois, les pouvoirs publics sont en retard. Les opérateurs de transport sont très en retard. Imaginez, vous pouvez... Aujourd'hui, une personne prend le bus avec une trottinette, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais si les 40 usagers du bus arrivent avec leur trottinette, il va falloir changer le design des bus.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'allais poser la question à Marc Simoncini, qui s'est donc lancé dans le développement et la vente d'un vélo électrique particulièrement performant, notamment pour les villes. Est-ce que ce n'est pas le risque demain que les villes soient saturées? Parce qu'à Paris, on est parti à fond dans les vélos, mais c'est vrai qu'on n'est pas comme aux Pays-Bas, avec des grandes pistes cyclables. Les choses sont en train de bouger, de s'adapter. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes entre les vélos, les piétons, les voitures, où on a du mal parfois à cohabiter tous ensemble.
Je ne vais pas dire ça devant un expert du sujet, mais moins il y aura de place attribuée à la voiture, plus il y aura de place attribuée au reste. Aujourd'hui, les trois quarts de l'espace public, c'est pour la bagnole. Alors qu'on voit bien que les voitures dans les centres-villes, c'est une aberration. Donc moi, j'ai juste un tout petit bémol sur l'aspect propriété-partage. Je mets le vélo un petit peu à part parce que de ce que je vois...
C'est normal, vous en rendez en même temps.
Non, mais je ne parle pas de ça pour le coup, mais de ce que moi je ressens et de ce que j'ai beaucoup de copains autour de moi qui ressentent. Le vélo, c'est quand même un objet auquel on est très attaché. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Peut-être que c'était le cheval il y a 200 ans et le vélo.
Et
je crois que l'envie d'avoir son propre vélo, de le bichonner, de le monter, de le truc, je ne suis pas sûr que les gens aient envie de bichonner une trottinette. Le vélo, je trouve qu'il y a un rapport particulier entre les gens et les vélos, et je ne suis pas si sûr. Alors, bien sûr que le vélo partage marche très bien, ce n'est pas le sujet. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être
Il y a des milliers de gens qui ont prêté leur vélo pendant le confinement.
Ça les ennuie de prêter
leur vélo aux soignants pendant le confinement. Il y a eu une bourse au vélo comme ça, et les gens qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils ne se déplaçaient pas ont prêté des milliers de vélos aux soignants.
Je voudrais vous entendre aussi sur un déclic, en fait. Sur un point, Jérôme Monnet, vous êtes. Pierre Cerne, pardon, vous êtes président du Club des villes et territoires cyclables, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé. Le vélo, c'est bien pour la santé, mais c'est bien pour l'écologie, parce que c'est ça aussi la finalité, c'est faire baisser nos émissions de CO2. Est-ce que là, l'impact est vraiment très important?
Là, on est en train d'entrer dans des proportions qui commencent à vraiment marquer un gros... Quand on voit 60%, 80% d'augmentation, on est en train d'entrer dans quelque chose. Il faut voir que la France est sous le coup d'une menace d'énormes sanctions européennes parce qu'elles ne respectent pas la qualité de l'air. Un tiers du plan qui a été présenté par le gouvernement à Bruxelles pour dire comment ils allaient résoudre et ne pas prendre l'amende, un tiers du plan, c'est du vélo. C'est l'essor du vélo. Et donc, le plan vélo... Et là, on parlait du vol. C'est vrai que c'est un énorme frein. Les gens, ils se font voler une fois le vélo, ils arrêtent d'en faire. Ils ne le prennent plus. Ah oui. À partir du 1er janvier 2021, tous les vélos qui seront vendus auront l'obligation d'être marqués, comme il y a en Allemagne. En Allemagne,
les retrouver plus facilement.
Exactement, et il y aura un fichier centralisé. Et ben en Allemagne, ça a fait chuter le vol et ça a participé au boost du vélo.
Bien.
À partir de 2021, on aura enfin ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il manque encore quelques trucs, mais ça, on l'a obtenu et c'est super.
On est toujours au téléphone en direct avec Sten van Osteren, qui est représentant de l'ambassade des Pays-Bas en France. Peut-être un mot, monsieur, sur l'impact écologique du développement du vélo chez vous aux Pays-Bas. Est-ce que là aussi, ça a eu une incidence importante sur les émissions de CO2? Est-ce qu'on respire mieux à Amsterdam, à Rotterdam?
L'impact est important parce que les transports sont la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Forcément, ça a un impact très positif. Mais moi, ce que je voudrais souvent surtout mettre en avant, c'est que le vélo, c'est avant tout un moyen de résoudre un problème d'espace, une façon de gérer la rareté de l'espace urbain qui devient de plus en plus rare à tel point
qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres solutions pour organiser notre mobilité. Et je vous donne juste un exemple.
Oui.
Il y a le boulevard Sébastopol à Paris, où il y a une petite piste cyclable qui transporte 17 000 cyclistes tous les jours, alors que sur les trois voies motorisées juste à côté, il y a moins de personnes en voiture. Donc, malgré ces trois voies pour les voitures, la voiture n'arrive pas à rattraper le vélo. Donc, vous voyez, c'est juste une efficacité extrême dont les politiques ont besoin aujourd'hui pour résoudre ce problème de densification. Et parlons aussi de la qualité de vie, tout simplement.
Oui. Et le bruit.
Pouvoir d'achat.
Le bruit.
Et le bruit, dit Marc Simoncini en plateau. Le bruit également.
Le bruit dans les villes.
Mais n'oublions pas que ce qu'il y a de moins polluant, de très 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 loin, mais infiniment moins polluant que le vélo, c'est la marche.
Oui.
Et elle a besoin de place.
Oui, alors là, ça sera l'occasion d'un autre débat, parce qu'aller faire ses courses à pied...
C'est pour ça qu'on ne met pas les bicyclettes sur les trottoirs.
Ou au contraire, on parlait de qualité de vie quand même. Quand vous avez un aménagement de l'espace qui permet aux gens d'aller faire leurs courses à pied, les gens le font, ils adorent ça.
Par quoi il faut compléter, au-delà des micro-mobilités, pour terminer cette discussion, le vélo? Vous me disiez pendant la coupure, attention, le vélo ne pourra pas tout résoudre, évidemment. C'est une solution, mais ça n'est qu'une des clés de la solution.
Clairement, il faut penser comme un système, c'est-à-dire le vélo avec les autres modes de transport, en particulier avec la marche, avec les transports en commun et toutes les autres formes de micro-mobilité. Donc, on a un industriel ici, penser au vélo multimodal, parce que ça permettra d'articuler avec les transports en commun. Et à partir de ce moment-là, une bonne quantité des questions qu'on se pose sur à quoi on a accès avec un vélo. Si vous dites, vous démultipliez la capacité d'accès du vélo avec les transports en commun, dans ce cas-là, vous avez accès à toute la métropole. Et dans le monde rural, que je ne connais pas aussi bien en tant qu'urbaniste, j'imagine qu'on va s'y retrouver de la même façon. Donc, pour moi, la question, elle est là. Alors, je vous disais, attention, parce que malgré tout, il ne faudra pas considérer ça comme une sorte de potion magique, c'est-à-dire la nouvelle mode dans laquelle, par exemple, les pouvoirs publics s'engouffreraient, investiraient. Alors, on attend encore que ça soit... Ouais.
Ce qui est bien avec le vélo, c'est que ça coûte
plus dans le vélo
que
dans l'automobile. Mais bon, ça ne peut pas concerner toutes les populations. Il y a des inégalités sociales, des inégalités générationnelles. Il ne faut pas oublier les personnes âgées, etc. Les PMR. Enfin, donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser système. On peut pas, si on pense à un seul maillon, le vélo, on risque de ne pas faire les choses correctement.
Bien. Eh bien, merci à tous les trois. Merci à tous les quatre. Merci à vous, monsieur. Par téléphone, vive les Pays-Bas et donc
bravo.
Vive le vélo. On marque une courte pause, 19h51, et on va continuer de parler vélo avec notre séquence archive dans quelques secondes, mais le vélo en mode compétition, le Tour de France, on va vous raconter le jour où, pour la première fois, le Tour de France a fait son arrivée sur les Champs-Élysées. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, on est toujours ensemble dans Europe Soir, en direct bien sûr dans le studio d'Europe 1 pour notre séquence archive. Vous en avez l'habitude, comme chaque soir on plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà.
Bonsoir Aude Leroy.
Bonsoir. Jean.
Vous nous avez rejoints et c'est vrai qu'on parlait avec nos invités du vélo. Eh bien, on va continuer avec vous. On va raconter l'histoire où le Tour de France est arrivé pour la première fois sur les Champs-Élysées. Pourquoi ? Eh bien, parce que dimanche, c'est l'arrivée du Tour de France avec cette dernière étape, 122 km au programme, depuis Mantes-la-Jolie. Alors, cette arrivée sur le Tour de France, ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas depuis 45 ans, je crois.
Oui, exactement. Parce qu'avant 1975, eh bien, l'ambiance de l'ultime étape du Tour, c'était ça. Une ambiance survoltée, mais quasiment confidentielle. De 1903, le premier tour, à 1974, l'arrivée du Tour de France se déroule uniquement dans des lieux clos. À Ville-d'Avray, dans les Hauts-de-Seine d'abord, puis au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement de Paris, et enfin au Vélodrome du Bois de Vincennes. Et l'idée d'une étape finale sur les Champs-Élysées, eh bien, elle ne vient pas d'un officiel, elle ne vient pas d'un organisateur ni d'un mécène, non, c'est Yves Mourouzi.
Yves Mourouzi ?
Oui, c'est lui qui l'a eu, lui, le présentateur vedette des journaux télévisés à l'époque de TF1, on est en 1974.
C'est Jean-Pierre Pernaut de l'époque.
Voilà, et il en parle, Yves Mourouzi, au tout nouveau président de la République, c'était au Salon du Cheval. Emballé, Valéry Giscard d'Estaing donne immédiatement son accord. Alors en France, eh bien, l'annonce sidère, on peut dire ça. À commencer par Raymond Poulidor, Poupou. vous savez, l'éternel second. C'était en novembre 1974. Écoutez ce qu'il répond à Eugène Saccomanno.
Heureusement que ce n'est pas le 1er avril, sinon on croirait que c'est vraiment le poisson d'avril, car je ne m'attendais pas à ça. Lorsqu'on parle des Champs-Élysées, évidemment, c'est plus qu'une apothéose, puisque moi j'ai fait le Tour de France lorsqu'on arrivait au Parc des Princes. Déjà, c'était grandiose, mais là, je crois que ça sera encore plus formidable.
Alors, de son côté, Valéry Giscard d'Estaing, lui, est juste enchanté. Les Champs-Élysées, le centre de Paris, à quelques mètres du Palais de l'Élysée, ça claque. C'est chic, c'est frais, c'est flamboyant. Alors du coup, le 20 juillet 1975, dans l'émission Europe Soir, le jeune chef de l'État joue volontiers au commentateur sportif pour la première édition sur les Champs-Élysées du Tour de France.
Un mot sur la course de Merckx, monsieur le Président.
C'est génial.
Je continue à courir comme il a fait, notamment le premier jour, d'ailleurs, après son accident. C'est la preuve d'une très grande volonté et d'un très grand courage. Je dois dire qu'à l'arrivée, il s'est comporté très amicalement et très élégamment vis-à-vis de Thévenet.
Et Poulidor, monsieur le Président.
Bien, Poulidor... Cette année, c'était surtout une démonstration de volonté et de résistance physique qu'il a donnée avec beaucoup de courage.
Alors cette année-là, en 1975, le chef de l'État va remettre le maillot jaune à Bernard Thévenet.
Et alors le côté sportif, c'est une ultime étape chic, prestigieuse, mais tranquille du coup ?
Écoutez, l'arrivée sur les Champs-Élysées, ce n'est pas du tout une balade de santé pour les coureurs, surtout qu'ils ont des milliers de kilomètres dans les jambes. Alors Jacques Anquetil, qui a arrêté lui le cyclisme quelques années avant, en 1969, pense que les 150 kilomètres de cette dernière étape du Tour de France seront difficiles. Il se confie d'ailleurs quelques mois auparavant à Fernand Choisel, toujours sur Europe numéro 1.
Je crois que j'ai monté les Champs-Élysées à bicyclette une fois ou deux, il y a même 20 ans, puisque j'étais militaire à ce moment-là, au bataillon de Joinville, et quelquefois j'allais à l'entraînement entre Paris et Rouen. J'étais assez courageux pour m'entraîner. Pour moi, c'est une très bonne idée, mais ce sera dur pour les coureurs à l'arrivée du Tour de France.
Eh oui, parce que les Champs-Élysées, c'est chic, mais ça monte. Et contrairement à ce que l'on pense, eh bien, cela va demander un incroyable dernier effort aux coureurs, explique Jacques Godet, directeur du Tour de France en 1974.
150 km, une vraie course, parce que c'est une épreuve particulièrement redoutable. Il y a des coureurs qui préféreraient monter le Galibier que de monter 25 fois. Les Champs-Élysées à 2%.
Il exagère un peu quand même, quand on les voit dans les pentes à 15% des Alpes.
Oui, en même temps, c'est la fin, donc on peut imaginer qu'effectivement, c'est fatigant. Et d'ailleurs, depuis 45 ans, la difficulté des Champs-Élysées ne se dément pas. D'ailleurs, Laurent Fignon s'en souvient, puisqu'en 1989, eh bien, 8 secondes de trop lui ont coûté le podium du Tour de France.
Eh bien, on en apprend des choses. Vous êtes drôlement calé en vélo, Aude Leroy.
Oui, depuis 2 heures.
Eh bien, vous apprenez vite. Merci beaucoup, Aude, pour ces archives toujours éclairantes et très amusantes. Et la preuve aussi que tout s'est passé ou tout se passe sur Europe numéro 1. Aujourd'hui, Europe 1, donc continuez à être fidèles. Le Tour de France, ça se termine donc dimanche. C'est à suivre évidemment sur nos antennes.
Europe 1, Julien Bugier.
19h58, dans un instant, place à la chanson avec Émilie Mazoyer. Charlotte Gardin est ce soir son invitée. C'est une chanteuse québécoise. Merci de votre fidélité. Un grand merci à l'équipe du 18-20. C'est vendredi. Christophe Carré, Marie-Baptiste Duhard, Victor Chabert, Anne-Claire Bazin, Vincent Thévenet à la réalisation et Jérémy Hébert. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi, même lieu, même heure. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, évidemment. À lundi, 18h, pour Europe Soir.